Radio Kapi. Oh, Kapi.
La Cour pénale internationale compte procéder à un examen préliminaire des crimes présumés des forces et groupes armés dans le Nord Kivu. Il s'agit de déterminer si les critères imposés pour l'ouverture d'une enquête sont réunis, annonce du procureur Karim Khan dans un communiqué publié hier. Et puis, deuxième jour hier à Lubumbashi de la 18e édition de la Semaine congolaise des mines, présente à ses assises, l'Agence américaine de développement USAID s'est dit prête à aider la RDC à promouvoir son secteur minier, dont celui des minerais considérés comme stratégiques. Madame, Messieurs, bonjour. Le procureur de la Cour pénale internationale CPI annonce qu'il va procéder à un examen préliminaire concernant des crimes présumés des forces et groupes armés dans la province du Nord Kivu. Dans un communiqué publié jeudi, Karim Khan affirme avoir l'intention de procéder instamment à un examen préliminaire servant à déterminer si les critères imposés pour l'ouverture d'une enquête sont réunis. Dans le même document, le procureur de la CPI renseigne que le gouvernement de la RDC a demandé à la Cour d'ouvrir une enquête sur les crimes de sa compétence dans la région du 1er janvier 2022 à ce jour. Que faut-il retenir de ce deuxième renvoi? Élément de réponse avec Kelly Nkouté.
Ce deuxième renvoi du gouvernement congolais concerne des crimes présumés du statut de Rome commis sur son territoire. Le premier renvoi reçu en mars 2004 demandait au procureur d'enquêter sur des crimes présumés relevant de la compétence de la Cour qui auraient été commis sur le territoire de la RDC à partir du 1er juillet 2002. Ce premier renvoi a donné lieu à l'ouverture d'une enquête en juin 2004 et à la poursuite d'un certain nombre d'affaires contre des individus responsables des crimes en vertu du statut de Rome commis dans le cadre du conflit armé en RDC. D'après le communiqué du procureur de la CPI, le nouveau renvoi est accompagné des documents supplémentaires et demande au bureau d'enquêter sur des forces et des groupes armés particuliers qui seraient responsables des crimes relevant du statut de Rome commis au Nord Kivu. Dans ce contexte, écrit Karim Khan, mon bureau a informé les autorités de la RDC que la portée juridictionnelle du renvoi s'appréciera conformément au principe énoncé dans le statut de Rome. En conséquence, tous les crimes allégués commis dans le cadre de la situation par toute personne, indépendamment de son affiliation ou de sa nationalité, seront analysés.
C'était le 16 juin 1976. Ce jour-là, en Afrique du Sud, des milliers d'étudiants sud-africains manifestent à Soweto pour exiger une éducation de qualité. La police du régime de l'apartheid en place à l'époque tire dans la foule. Des centaines d'enfants sont tués et d'autres blessés. Depuis, la Journée internationale de l'enfant africain est instituée. Elle est célébrée le 16 juin de chaque année en souvenir à ce massacre des enfants de Soweto. Avant d'aller plus loin dans ce dossier, Radio Okapi a voulu tester les connaissances des Kinois sur la Journée internationale de l'enfant africain commémorée aujourd'hui. Jacques-Yves Molima a tendu son micro aux passants qu'il a rencontrés dans les rues de la capitale. Suivez son reportage.
Avez-vous entendu parler de la Journée de l'enfant africain?
Non.
Vous n'avez jamais entendu parler?
Non.
Vous n'avez aucune idée?
Non. Moi, je n'ai jamais entendu parler.
Et vous,
moi non plus.
Ces jeunes filles ne sont pas les seules, même certaines personnes âgées aussi.
En tout cas, je ne suis même pas au courant.
Toutefois, certains savent quelque chose.
Oui, j'ai une idée. Je sais que la Journée mondiale de l'enfant africain se célèbre chaque 16 juin de l'année.
Et de ce fait, ils remarquent que...
Nous pensons que c'est un enfant peut-être un peu en déperdition.
Pas seulement en déperdition, mais sa condition n'est pas bonne du tout.
L'enfant vit dans un environnement sale, pollué. Ça ne va pas amener à une bonne évolution à la santé des enfants.
D'où elle lance cette interpellation.
Les enfants doivent avoir une bonne éducation, d'abord venant de parents, et un bon endroit où vivre, parce qu'ils sont souvent mis en danger avec certaines maladies.
C'est alors que d'autres formulent cette recommandation.
Les enfants peuvent avoir accès aux soins de santé gratuitement, c'est possible aussi.
Enfin, d'autres pensent que dans tout ça, les responsabilités sont partagées.
Que les familles fassent tout pour l'encadrement des enfants, c'est un peu partagé. Il y a les parents, il y a les enfants, il y a aussi l'État.
À chacun de prendre conscience.
Entre-temps, à Bounia, en Ituri, la présence des enfants appelés enfants de la rue constitue une menace pour la population marchande qui vient s'approvisionner en vivres et autres produits de première nécessité. C'est le constat fait à l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée aujourd'hui. Certains habitants se font ravir leurs sacs ou dépouiller de l'argent ou encore des téléphones, affirment les victimes qui plaident pour l'encadrement de ces enfants par le gouvernement et les humanitaires. C'est un reportage de Marine Mamagira.
Ces enfants dits de la rue sont de plus en plus nombreux au marché central de Bounia. Ils sont visibles dans tous les coins de ces lieux publics. Leur présence crée une psychose chez la population marchande qui se dit souvent victime des vols. Certains marchands témoignent.
Nos clients souffrent beaucoup. Des fois, on vole le téléphone, l'argent au niveau de ces petits couloirs. Mais comment dire? Il n'y a rien à faire. Ceci se fait alors que le marché a ses responsables. Il va falloir qu'ils prennent les responsabilités.
Face à cette menace, le réseau d'associations pour le développement durable RAD procède à l'identification de ces enfants depuis 2021 pour leur réinsertion dans leurs familles respectives en vue d'atteindre zéro enfant dans les rues de Bounia, son coordinateur Florent Zama.
Nous avons identifié 19 foyers de rassemblement des enfants et déjà au Ropekapa, où il y a de cela un mois, nous avions identifié 65 enfants, parmi lesquels 4 filles. Question que nous puissions dégonfler les rues de la ville de Bounia. Qu'on ait zéro enfant dans les rues de la ville de Bounia.
Des centaines d'autres enfants qui ont fui les atrocités des groupes armés dans le territoire de Djougou traînent dans les rues de la ville de Bounia en mendiant de l'argent auprès des passants. Bounia, Marine Mamagira, Radio Okapi.
Toujours en Ituri, près de 21 500 enfants en âge scolaire ne vont pas à l'école à cause des conflits armés qui affectent la province. Ces statistiques sont révélées par le coordonnateur du réseau des associations pour le développement durable, RAD, après des enquêtes menées dans 4 sites installés à Bounia et dans les villages environnants. C'était hier, au cours d'une production publique organisée par Radio Okapi à l'université Shalom de Bounia. Selon le responsable de RAD, faute d'encadrement, la plupart de ces enfants se retrouvent dans la rue où ils s'adonnent aux stupéfiants. Plusieurs personnes interrogées invitent le gouvernement à prendre ses responsabilités face à ce fléau. Des détails dans ce reportage de Jean-Claude Loki.
Kigonze, Salama, Yespe, Bounia et Rwampara sur le site où l'ONG-RAD dit avoir mené ses enquêtes. Sur les 21 494 enfants figurent 11 194 filles dont certaines sont violées ou sont tombées enceintes. Le responsable de cette organisation ajoute que d'autres parmi eux passent la nuit à la Belle Étoile où ils sont exposés à plusieurs risques, comme l'explique Florent Zama.
Dans les rues de la ville de Bounia, vous trouverez au rond-point Kappa. Là-bas, nous avons 65 enfants que nous avons identifiés, dont 4 filles. Une fille de 13 ans qui a été victime de violences sexuelles. Elle est enceinte à l'heure qu'il est. Et dans les cabarets, la nuit, elles sont violées.
Du côté de la MONUSCO, on indique que des efforts sont fournis pour que les droits des enfants soient respectés. C'est à travers des plaidoyers qui sont faits pour que des solutions soient trouvées à cette problématique. Paul Nkaramire est officier de la section protection de l'enfant.
Il y a des actions qui ont été prises à l'endroit de certains auteurs des violations graves des droits de l'enfant qui ont été déférées devant la justice. Il y a des dossiers qui sont en instruction et il y a d'autres qui attendent les jugements.
Pour la division provinciale du genre famille et enfants, la solution durable passe par le rétablissement de la paix pour permettre aux personnes déplacées de retourner dans leur village où ils peuvent scolariser leurs enfants dans des conditions normales. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile Radio Okapi.
Et nous poursuivons notre série de reportages sur la situation des enfants congolais. Cynthia Bachizi est allée à la rencontre de Ndale Nyengela, ex-enfant combattant. Aujourd'hui, il est encadré au centre de BVS, le bureau de volontariat au service de l'enfance et la santé à Bukavu. Elle nous dresse son portrait.
C'est fini jeudi, j'avais 11 ans. On partait à l'école, comme d'habitude, tous les jours.
C'est justement à 6 heures du matin, sur ce chemin d'école, que Ndale croise des hommes armés. Nous sommes dans le territoire de Fizi en 2008. Ces miliciens lui expliquent que son devoir est de défendre sa terre et qu'il n'avait pas sa place à l'école.
La peur d'aller au combat, de mourir et tout ça, de laisser mes parents, mes amis, le village, l'école, abandonner mes rêves, j'avais trop peur. Il y a des amis qui tombaient déjà, mourir à côté de moi, et j'avais peur.
Ses rêves brisés, Ndale côtoie l'horreur, manipuler les armes le traumatise. Ce calvaire dure 3 ans. Il est extirpé de cette milice grâce aux efforts menés par le gouvernement congolais et ses partenaires, notamment la MONUSCO. Ndale se retrouve ainsi au centre BVS qui le scolarise. Aujourd'hui, il est en première licence à la faculté de droit dans une université de Bukavu.
Peut-être d'affronter la magistrature pour espérer condamner ce genre de pratiques que j'ai beaucoup détesté. Devenir un défenseur des droits de l'homme, en particulier les droits de l'enfant, les droits de la jeune fille.
Comme Dalier, beaucoup d'enfants sont encore recrutés par les groupes armés dans la partie est de la RDC. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Autre nouvelle, les deux chambres du Parlement ont clôturé hier tard dans la soirée la session ordinaire de mars. Peu avant la clôture, le ministre des Finances a déposé le projet de loi portant reddition des comptes de l'exercice 2022 et c'est pour la troisième fois que le gouvernement a su respecter le délai fixé par la loi relative aux finances publiques pour le dépôt de ce texte. Au sortir de cette audience, le ministre des Finances s'est félicité d'avoir déposé le rapport de l'exécution du budget 2022 afin de permettre au Parlement de l'examiner dès la rentrée de septembre. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, est au micro de Michel Kifindangoy.
J'ai eu l'honneur d'être reçu par l'honorable président de l'Assemblée nationale pour lui remettre le projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2022. Il s'agit de la troisième fois que j'ai l'honneur de venir déposer ce document devant le président de la Chambre basse pour nous conformer aux exigences de la Constitution. Il s'agit d'un projet de loi portant reddition des comptes pour l'exercice 2022, c'est-à-dire la clôture des comptes de l'exercice budgétaire de l'année passée avec tous les éléments de rectification qui concernent. Et également, c'est un document, un exercice démocratique qui vise à rendre compte et qui traduit avec un esprit de sincérité et de réalité la manière dont le budget a été exécuté pendant l'année dernière.
Dans l'actualité aussi, ouverte mercredi à Lubumbashi, la 18e édition de la DRC Mining Week, ou Semaine congolaise des mines, était à sa deuxième journée hier. Présente à ses assises, l'Agence américaine de développement USAID s'est dit prête à aider la RDC à promouvoir son secteur minier, dont celui des minerais considérés comme stratégiques. Des précisions avec Jean Gandou Kabongo.
D'après le directeur de l'USAID en RDC, dont le discours a été lu par les conseillers en croissance économique, les États-Unis et la RDC entretiennent un partenariat de longue date. Grâce à ce partenariat, ils engagent fréquemment le gouvernement de la RDC et les peuples congolais à lutter contre la corruption, à promouvoir la responsabilité, à uniformiser les règles du jeu pour faire des affaires dans tous les domaines, y compris les secteurs miniers. Pour lui, les États-Unis ont l'intention de se concentrer sur les défis et les opportunités dans les secteurs miniers en RDC, en particulier sur ce que les États-Unis considèrent comme des minéraux critiques tels que le cobalt, le lithium, le tantal, le tin, le zinc, le niobium et d'autres qui sont disponibles en RDC. La RDC, pour sa part, considère certains d'entre eux, dont le cobalt, le tantal et le niobium, comme stratégiques. D'après Richard Robinson, conseiller en croissance économique à l'USAID, pour s'attirer les investisseurs, la RDC devra...
Dans le secteur industriel, il faut atténuer les risques pour les investisseurs, pour qu'ils puissent être plus à l'aise d'investir plus de millions. Pour le secteur artisanal, c'est une appréciation que tous les respects de droits d'homme et les conditions de travail peuvent améliorer pour que cette production puisse arriver plus facilement dans la chaîne d'achat étrangère.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et puis, la province du Nord Kivu voit désormais son équipe provinciale intégrée de transition, EPIT en sigle. Elle a été installée officiellement hier à Goma, composée des membres du gouvernement provincial, de la MONUSCO et des représentants pays du système des Nations Unies en province. EPIT Nord Kivu est appelé à accompagner la transition jusqu'à la sortie graduelle et responsable de la MONUSCO de la RDC. Lors de l'installation de cette équipe, le gouverneur du Nord Kivu a lancé un appel surtout aux jeunes. Il les invite à ne pas forcer une porte déjà ouverte, faisant ainsi allusion aux divers actes de vandalisme des biens de la mission onusienne. Jules Ngala, reportage.
C'est par des acclamations que l'équipe provinciale intégrée de transition EPIT a été validée. Cette équipe comprend une douzaine de membres, dont 6 du gouvernement provincial et 6 autres de la MONUSCO. S'adressant aux jeunes du Nord Kivu en Lingala, le général Constant Dima les a invités à la tolérance. Ne forcez pas une porte qui est déjà ouverte, a-t-il lancé en évoquant le rôle de transition dévolu à l'équipe provinciale intégrée de transition. Tout en louant la mise en place de l'EPIT Nord Kivu, les participants à l'atelier ont toutefois fustigé l'absence de la parité au sein de l'équipe constituée. Isabelle Pendeza était dans la salle.
Il n'y a pas la participation de femmes, mais aussi la société civile qui est invitée comme une partie consultative et non comme une partie qui doit participer aux décisions en fait.
La durée de la transition ni le budget alloué à l'équipe n'ont pas été révélés. Goma, Jules Ngalawamona, Radio Okapi.
À l'étranger, sachez que la délégation africaine dans la crise russo-ukrainienne est en Pologne, en route pour Kiev. Sa mission est d'essayer de rapprocher les points de vue des deux protagonistes en vue de trouver une solution à la guerre. Cette délégation est composée notamment des pays tels que l'Afrique du Sud, le Sénégal et le Congo-Brazzaville. Nous y reviendrons. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention.